Nous allons lire maintenant ensemble dans Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er, les versets 8 à 21. Daniel chapitre 1er, versets 8 à 21. Nous aurons au moins vu ce premier chapitre ensemble. Daniel 1, 8 à 21. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant portait les mets, le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. 2 textes dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'épître de Paul aux Galates. Galates, chapitre 5. Galates chapitre 5, nous avons lu hier soir les versets 19 à 21, nous lisons cet après-midi le verset 22, Galates 5, 22, qui exprime un contraste par le petit mot « mais ». Galates 5, 22, « mais le fruit de l'esprit ». C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, qui est la mise en pratique de cette bonté sur le terrain, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la force intérieure. Et puis un dernier texte qui est aussi un complément de lecture par rapport à ce matin, dans la première épître de Pierre, première épître de Pierre au chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3, nous en avions lu ce matin les versets 10 à 15a. Nous reprenons le verset 15 pour aller jusqu'au verset 17. 1 Pierre 3, 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. » afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Nous avons donc vu ensemble notre ami Daniel, au verset 8, prendre nettement position. Il opte résolument dans son cœur pour ce que nous avons appelé une vie de sainteté. Et nous avons surtout essayé ensemble de comprendre quelles étaient dans les Écritures, quelles étaient les marques, les caractéristiques fondamentales de la sainteté. Choisir Dieu dans un monde moderne, avons-nous dit, c'est choisir la sainteté purification, séparation du péché par la purification du cœur, et puis séparation, rupture pour, mise à part pour le Seigneur, avant d'être contre, parce que c'est vrai que ensuite, dans la mesure où vraiment le Seigneur règne dans notre vie, nous aurons à prendre des positions qui parfois seront des positions contradictoires. Il nous arrivera, dans certaines situations, de devoir dire non. Non à l'avortement, non à toutes sortes de formes de corruption, etc. Mais ce non va partir de notre oui. C'est là la différence. Et puis enfin, nous avons terminé en soulignant d'une part que Daniel avait fait acte de rupture radicale avec la souillure. Il ne s'était pas installé dans une sorte de no man's land, ces territoires qui se situent, comme on dit, à cheval sur les frontières, et j'ai habité pendant 19 ans de ma vie à 100 mètres d'un no man's land, je sais ce que c'est. On ne peut pas vivre dans une sorte de neutralité à la lisière de la vie de l'Église de Jésus-Christ. Nous ne pourrons prétendre au jugement dernier de notre proximité du salut pour dire « je suis sauvé ». On l'est ou on ne l'est pas. Il y a donc un choix clair à faire. C'était le premier aspect de notre conclusion, ce refus permanent du flou, auquel nous avions ajouté, c'était très solennel, les répercussions à très long terme, non seulement pour cette vie, mais aussi pour l'autre, de l'autre côté, après ce grand passage de la mort, la nécessité donc de faire des choix qui soient décisifs dans ce domaine important de la nouvelle naissance, puisque c'est non seulement pour cette vie, mais c'est aussi pour l'éternité. 10 jours d'un côté dans la vie de Daniel, nous allons le revoir, 70 ans de répercussions sur la terre, et puis, je crois aussi, dans le ciel, une vie de récompense à la hauteur de la beauté de ce ministère. Le salut est gratuit, mais la Bible parle de récompense et de responsabilité dans la sphère céleste en présence de Jésus-Christ. Nous allons un petit peu plus loin parce que nous n'avons pas fini de parler sainteté. Et ce que nous allons voir cet après-midi est aussi très important. Parce que certains d'entre nous, en fonction de leur cursus jusqu'ici, de leur marche chrétienne, de leur tempérament, de leurs expériences, pourraient se frotter les mains. Après que nous ayons partagé tout ce que nous avons dit, ils pourraient se dire, ah ben, c'est bien, je suis dans le profil. Je me réjouis si nous sommes encouragés. Dans la mesure où notre encouragement correspond à une réalité dans notre vie. Et ce que je veux simplement dire, c'est que nous pourrions nous gargariser de nos positions courageuses. Dire, oui, moi je n'ai pas hésité dans telle et telle situation de ma vie, face à tel problème, face à telle personne, à tel carrefour, je n'ai pas hésité à prendre résolument position pour le Seigneur. Je n'ai pas hésité à vivre une rupture radicale. Donc, j'ai la faveur de Dieu. D'accord ? Dans la mesure où nous remplissons une autre condition. Une condition que j'appellerais condition de climat. Parce que la sainteté doit s'exprimer, se vivre dans un certain climat, dans une certaine qualité de climat. Nous pourrions intituler notre étude cet après-midi « Pour une meilleure mine dans un monde moderne ». Vous avez remarqué peut-être que le climat qui préside à cette résolution est remarquable. Nous ne sommes pas en présence d'un jeune homme sûr de lui, tellement sûr et tellement résolu qu'il se met à frapper du poing sur la table pour faire la loi. Il prend position, certes, mais il prend position avec amour, sans dureté, sans esprit de jugement, sans mépris, mais avec une grande délicatesse de cœur, avec beaucoup de sensibilité, nous y reviendrons avec beaucoup de douceur, de respect, de modestie. Une lecture attentive de l'ensemble du livre de Daniel nous permet de penser que Daniel devait être un homme agréable à côtoyer. Il n'y a pas chez lui de ces aspérités de caractère négatif qui vous égratignent, qui vous accrochent de mauvaise manière. Beaucoup de sensibilité. Il ne s'érige pas en juge orgueilleux de la société babylonienne. Il ne fait pas son procès. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que il ne veut pas imposer autoritairement sa résolution au monde païen. Vous avez remarqué comment il se met dans la peau de son patron ? Il a manifestement réfléchi au séisme dont va souffrir son patron en entendant sa proposition. Il se dit, quand je vais lui dire qu'il va y avoir des turbulences, il va être choqué. Mon patron n'a certainement pas l'habitude d'entendre des subalternes, des élèves, faire une telle demande. Ça n'a pas cours, ce n'est pas dans les habitudes, ce n'est pas inscrit dans les règlements de l'école. Donc il faut que j'essaye de prolonger ma décision. Il faut que j'essaye de réfléchir, d'anticiper sa réaction. Parce qu'après tout, lui, il ne connaît pas le Dieu d'Israël, il ne connaît pas mon Dieu. Il n'a pas vécu le réveil que j'ai vécu dans mon enfance. Il ne s'est pas frotté à cette merveilleuse réalité de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant que je connais. Je ne peux donc pas lui en vouloir qu'il ne réagisse pas comme moi. Et donc, au lieu d'imposer autoritairement sa résolution à son patron, il va se mettre dans la peau de son patron. Il reconnaît la difficulté de la situation. Il se dit, mais mon patron, il a aussi un patron au-dessus de lui. Ce n'est pas un homme libre. Il risque sa peau. Et s'il me donne trop de liberté, s'il prend sur lui de m'accorder ce que je demande, ça peut lui coûter à lui sa place. Il peut se retrouver du jour au lendemain ou au chômage, ou même sur un poteau de torture, vu la gentillesse de Nebuchadnezzar. Donc là aussi, il faut que j'essaye de tout faire pour dégager sa responsabilité. Et je suis persuadé que son patron a dû le sentir, pour avoir réagi comme il a réagi. Parce que si son patron avait été pris à rebrousse-poil, nous en aurions un placard dans le texte. Pas du tout. Il semble que les choses se passent relativement bien. Je ne dis pas totalement bien, parce que nous ne savons pas forcément tout, mais il n'y a pas de grogneur dans les échanges. Au lieu de braquer son patron, il touche son cœur par sa courtoisie. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. On peut être gentil dans ses résolutions avec son patron et puis essuyer une tempête du style Cap Horn, c'est vrai. Mais une chose est de tirer le diable par la queue et de rechercher les tempêtes. Une autre chose est de les vivre quand on ne les a pas provoquées. Vous voyez la différence? Personne ne pourra lui dire, tu sais, si tu avais été moins autoritaire et moins soupolé, ça se serait peut-être passé différemment. Le jeune Daniel marche donc dans la vérité et la sainteté avec amour. C'est un homme de bon contact, parce qu'il est un homme de tact. Contact va avec tact. Et voyez-vous, Daniel, dans son comportement, est un premier défi lancé à notre tendance au déséquilibre. Réfléchissons ensemble. En ce qui concerne notre sainteté. Lorsque nous sommes rendus sensibles à la nécessité de vivre une authentique sainteté, nous prenons des résolutions. Et dans les choix qui suivent, parce que nous avons été sensibilisés, nous sommes souvent tentés par la dureté. Nous commençons à avoir une sorte de rigidité de soldat de plomb. Nous devenons Monsieur Guillotin. Au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons à couper des têtes. Parce que nous sommes sensibles à la nécessité de marcher dans la sainteté. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit commence à travailler dans notre cœur. Et il nous dit, Maurice, t'es trop dur. Tu as raison de vouloir vivre dans la sainteté. Mais tu as tort, parce que tu n'y mets pas la manière. Et tu es en train de développer peu à peu, finalement, une caricature de la sainteté, tout en voulant vivre la sainteté, parce que tu es dur. Alors, repris dans notre conscience par le Seigneur, nous disons, Seigneur, je te demande pardon. Effectivement, j'ai manqué d'amour. Alors maintenant, Seigneur, je vais me recentrer. Et je te demande de m'aider à vivre avec beaucoup plus d'amour. Alors quand nous commençons à être sensibles dans ce domaine, que nous laissons le Seigneur travailler en nous, nous allons vers davantage d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en allant vers davantage d'amour, peu à peu, nous n'osons plus prendre position. Nous avons tellement peur de faire mal. Nous avons tellement peur d'être durs, d'être cassants, d'être autoritaires, que finalement, nous rentrons dans notre coquille, et il arrive un moment où le Saint-Esprit nous dit, Maurice, Dans ton amour, tu es en train de devenir un mollusque, un invertébré, une grenouille. Tu es flasque. Tu es en train de perdre ta vision de sainteté. Et ça, c'est notre éternel problème. Réfléchissons chacun à notre vie chrétienne et vous verrez que nous sommes tous comme ça. Nous fluctuons continuellement au fil de notre croissance chrétienne entre des extrêmes de ce genre. Tantôt, soldats de plomb rigides dans notre sainteté, tantôt, mollusques, grenouilles invertébrées dans un amour sans sainteté. Et ce qui est beau, c'est cette attitude de Daniel qui, par maturité malgré son jeune âge, a su marier très étroitement sa vie de sainteté avec l'amour, les deux étant indissociables. Quelqu'un a écrit ceci, il y a un type de chrétien dont le comportement, au lieu de préparer les cœurs à recevoir la semence de l'Évangile, ne fait que les endurcir. Ce sont les orthodoxes de la saine doctrine, sûrs de leur affaire, affrontant le prochain d'un air de supériorité et de ce fait le poussant à se renfermer en lui-même au lieu d'ouvrir son cœur au message de la grâce. C'est le chrétien éléphant, dont les pattes massives, en foulant le terrain, le rendent dur et impénétrable. Chrétien éléphant. Il nous faut nous refuser au flou, c'est vrai. Il nous faut nous refuser à la compromission, à la magouille, à la diplomatie politicienne, aux grandes manœuvres. Mais nous y refuser ne signifie pas le refus du tact, le refus des nuances, le refus de la sensibilité. Dieu, je l'ai souvent dit, ne nous invite jamais à une franchise brutale. Dans notre vie de disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre la mesure et les convenances, le tact. Je ne me souviens plus si je vous ai raconté cette histoire de manque de tact absolument évident qui s'est produite au lendemain matin d'une soirée d'enseignement sur le tact qui avait été vraiment percutante. Et à l'issue de cette réunion, un coiffeur est rentré chez lui en disant « Seigneur, il faut que demain matin je témoigne absolument pour toi. Tu sais que c'est mon problème, j'ai du mal à témoigner, l'orateur en a parlé, il faut que demain matin, dès l'ouverture de mon studio de coiffure, il faut absolument que je témoigne. » Alors le lendemain matin, il arrive, il ouvre son salon, il installe son premier client, il lui met le tablier autour du cou, et puis il demande ce que le client désire, et au-delà des cheveux, il y avait un problème de barbe à résoudre aussi, alors il sort son grand rasoir. Et selon la coutume, il se met vigoureusement à faire le geste classique que vous connaissez certainement, et tout en faisant ce geste, il prie de tout son cœur en disant « Mais Seigneur, tu sais que j'ai du mal, il faut que je me jette à l'eau, il faut que je parle à cet homme. » Alors il regarde son bonhomme tout en continuant à aiguiser son rasoir et lui dit « Monsieur, êtes-vous prêt à rencontrer Dieu ?» Inutile de dire que ce matin-là, le coiffeur a perdu un client et son tablier aussi. Manque de tact. L'importance de la sagesse. C'est Victor Hugo qui a dit, il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la tête d'un cinquième étage et qui vous disent, je vous offre des fleurs. Vous avez remarqué dans Daniel chapitre 1er, au verset 17, il nous est dit, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, Daniel avait la conscience et maintenant il avait la science. Vous connaissez le proverbe, hein? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais ce qui est beau, c'est que Daniel va encore plus loin de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Il a la conscience pour lui, il a la science pour lui, mais il a aussi la sagesse pour lui. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Sagesse, un mot latin, sapiens, le vieux mot français d'ailleurs, qui signifie à proprement parler à l'origine saveur. Le verbe sapere, d'où vient le mot sapiens ou sagesse, veut dire littéralement être sage, mais aussi avoir du goût. Donc la sagesse, c'est la saveur de l'âme. De la même manière que nous avons des papilles gustatives qui nous permettent d'apprécier les mets dans le domaine physique, Dieu veut nous donner des papilles gustatives dans le domaine de l'âme pour apprécier les mets dans le domaine moral et spirituel. C'est ce qui va donc nous permettre de nous attacher tout de suite au bon et de rejeter instantanément le mauvais. La sagesse, a dit quelqu'un, est la juste utilisation de la connaissance. Connaître n'est pas être sage. Bien des hommes ont beaucoup de connaissances, ils sont pour cela de plus grands insensés. Il n'existe pas de plus grand insensé qu'un insensé rempli de connaissances. Mais savoir comment utiliser cette connaissance, c'est avoir la sagesse. Il ne s'agit pas d'être au clair sur tout le contenu, le programme de la sainteté. Encore faut-il être capable, par le Saint-Esprit, de l'appliquer avec la saveur de l'âme, avec le bon sens de l'âme. Sinon, une fois de plus, nous allons tordre la beauté de la sainteté. Quelqu'un écrit ceci aussi, la valeur d'une passion comme celle d'un feu se juge à la quantité de chaleur et de lumière qu'elle donne. Les fanatiques, comme les incendies de forêt, lancent de grandes flammes, mais détruisent tout ce qui est vert et tendre. Pour vivre passionnément, il faut se discipliner. Pour aimer avec force, il faut se lier par un engagement. La passion est inséparable de la compassion. Être passionné de Dieu, c'est être passionné de sainteté pour ressembler à Dieu. Mais cette passion-là doit être accompagnée de compassion. Je crois que c'est Albert Camus qui disait qu'il y a deux sortes de force. Il y a la force de la sève et il y a la force du typhon. La force de la sève, nous l'avons vu ce matin, elle est puissante, elle est irrésistible, elle poursuit obstinément son chemin, parfois dans des contextes terriblement difficiles et opposés. Mais pourtant, elle le fait avec douceur. Le typhon est éminemment violent, mais il renverse tout sur son passage. Dans notre vie de sainteté, nous avons aussi le choix. Soit être des typhons, des cyclones ambulants, des Hugo, qui se promènent partout en laissant des douleurs sur leur passage au nom d'une prétendue sainteté, ou encore d'être rempli de la sève de Jésus-Christ. Ceci dit, comment notre ami Daniel procède-t-il? Comment s'y prend-il pour allier l'amour à la sainteté? Eh bien, c'est intéressant, il fait une proposition. Et il dit en quelque sorte, par le biais de son patron à ses collègues, et au personnel de l'établissement dans lequel il étudie, il dit ceci: regardez-nous vivre. Au régime de notre Dieu, ce Dieu que vous ne connaissez pas, regardez-nous vivre pendant 10 jours. Et ensuite, vous déciderez. Et je prétends, moi, Daniel, que vous verrez une différence. Laissez-nous vivre selon notre régime, lié à notre foi en Dieu, et regardez-nous. Et puis vous jugerez sur pièce. Et si au bout de 10 jours c'est raté, si nous sommes filiformes, maigrichons, si l'un d'entre nous est à la clinique, à l'hôpital ou à l'infirmerie, si nous nous sommes chamaillés entre-temps, vous en déduirez que la vérité est de votre côté. Mais attention, si par contre nous avons bonne mine, malgré notre régime, acceptez d'en tirer les bonnes conclusions et laissez-nous aller jusqu'au bout de l'expérience. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 16, le texte que j'ai sous les yeux dit: l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Certaines versions ont été un peu plus pointues selon le texte original et ont ajouté: désormais l'intendant emportait les mets, ou encore: dès lors l'intendant emportait les mets. Et ça, c'est intéressant, parce que cette petite nuance laisse entendre que il était bien gentil, le patron, mais il n'avait quand même pas envie de trop se mouiller. Il savait qu'il risquait gros. Et il s'est dit: oui, si dans 10 jours l'expérience a raté et que l'un des 10 croise Nebuchadnezzar à quelque part, de toute façon j'aurai des problèmes quand même. Alors il a dû donner des ordres au maître coq 3 étoiles, puisque ça vient juste de passer, n'est-ce pas, du palais, en lui disant: écoute, tu vas continuer à préparer la meilleure de tes cuisines, sans rien changer à tes habitudes, sinon même en améliorant la qualité. Tu vas choisir des mets au parfum particulièrement subtil qui ouvre l'appétit. Et il a donné des ordres pour que jour après jour et à chaque repas, on apporte à Daniel et à ses compagnons les 2 possibilités. Vous voulez des légumes? Regardez un petit peu. On va vous en donner. Qu'est-ce que vous avez envie? Des épinards? On va vous les faire bien verts, qui flottent dans de l'eau un peu trouble, n'est-ce pas, pour que vous ne les aimiez surtout pas. Mais à côté de ça, regardez un petit peu vos collègues. Voyez donc ces belles cuisses de je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, avec ce fumet que cela dégage. Ce désormais laisse entendre que pendant 10 jours, notre ami le patron s'est protégé. Il voulait qu'à tout moment, s'il était appelé à se justifier devant Nebuchadnezzar, il puisse lui dire: oui, mais je leur ai offert. Ce sont simplement eux qui n'ont pas voulu prendre chaque fois que je leur ai offert. Donc c'est leur responsabilité. Vous comprenez? Alors vous imaginez bien que pendant ces 10 jours, les camarades d'études de Daniel et de ses compagnons ont regardé. J'imagine qu'ils ont ricané, comme on peut ricaner en face du témoignage d'un enfant de Dieu qui prend courageusement position à l'école, au lycée, à l'internat, à l'université, dans l'atelier, etc., etc., n'est-ce pas? Ils ont ricané. Je pense que certains se sont donné du coude en disant: oh là là, t'as vu le petit Jésus? Ils n'ont pas de ventre, ces gens. Regardez donc comment ils se privent. Oh, mais les pauvres petits, le piétiste, le puritain. Vous n'êtes pas fous de risquer votre place en or, mais vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que vous avez dans les biceps? C'est ça, votre petit Dieu. Moi, j'imagine très bien que ça s'est passé comme ça. On les a observés. Moi, j'imagine aussi qu'on les a pris l'un après l'autre à part, vous savez, et on les a entrepris. Un tel a dit à l'autre: Dieu, écoute, Daniel, il est complètement fada. C'est un fanatique,
Comment est-ce que tu peux suivre ce copain fanatique? Sois un petit peu plus modéré. On ne te demande pas de manger un kilo de viande, mais mange-en au moins 100 grammes. Vous imaginez ce qui se serait passé si, dans ces 10 jours, l'équipe des 4 s'était mise à se disputer? Que l'un ait pointé Daniel du doigt avec sévérité ou larmoyant en lui disant « Écoute, Daniel, ça suffit, moi j'en ai assez, je tiens plus le coup, tu es trop dur avec nous. » C'était raté. C'était raté. C'était donc ce que j'appelle l'épreuve de vérité. Le test de la qualité de la vie. Quand Jean-Baptiste, au fond de sa prison, dans un moment très difficile, a envoyé certains de ses disciples vers Jésus pour lui poser une simple question, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous connaissez ce texte. Quand les disciples ont posé cette question à Jésus, la Bible montre que Jésus n'a pas répondu tout de suite. Il a enregistré la question dans le texte de Luc 7, versets 18 à 23, et il a continué à faire son travail. Il a continué à enseigner, il a continué à guérir des malades, à s'occuper des uns et des autres, à prendre des enfants dans les bras. Et sans doute au moment où les disciples de Jean-Baptiste commençaient à se dire « Oh, mais le maître a dû nous oublier. » Alors Jésus s'est tourné vers eux. Et il leur a dit simplement « Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Le test de la qualité de la vie. Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. C'est le meilleur garant de la validité du message de Jean-Baptiste. Mon témoignage. Ah mais attention, je vois certains d'entre nous venir qui disent « Ah oui, mais Jésus a dit « Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Bon, ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est ce qui est vu. Ce qui est entendu vient après, d'accord? Vu et entendu. Le témoignage vécu est plus important que le témoignage parlé. Généralement, tiennent ce genre de discours ceux qui ont de la peine à parler. C'est la raison pour laquelle nous avons ce qu'on appelle des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui présentent le Seigneur Jésus sous différents angles pour donner la complémentarité du message dans sa totalité. Parce que dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 4, c'est intéressant. L'évangéliste rapporte la parole à l'envers. Cela veut dire que Jésus s'est certainement exprimé beaucoup plus longuement et que chacun a retenu une partie du discours de Jésus. Parce que dans Matthieu chapitre 11 verset 4, il est dit « Rapportez à Jean ce que vous avez entendu et vu. » 0 à 0 ou 1 à 1. L'un est aussi important que l'autre. Lorsque les disciples de Jésus ont accompagné Jésus sans doute au pied de l'Hermon, près des sources du Jourdain, pour une retraite, et que Jésus leur a posé la question, mais qui dit-on que je suis? Alors les uns lui ont répondu, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, l'un des prophètes. Et puis, Simon-Pierre, avec beaucoup d'émotion, lui a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Ces hommes qui n'étaient pas des mauviettes, à qui on ne pouvait pas non plus raconter n'importe quelle salade. Ils étaient pratiquement tous de ces rudes pêcheurs galiléens, habitués à travailler contre les éléments. Ils avaient Le chapeau près du bonnet, n'est-ce pas? Et comment? Eh bien, après 3 ans, bientôt 3 ans de vie avec Jésus, quand Jésus leur posait la question, ils pouvaient dire, il y a chez toi, Seigneur, une qualité de vie telle que nous ne pouvons plus douter un seul instant que tu es bien ce que tu prétends être. Tu es bien le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils l'avaient vu et entendu côtoyer de très près. Les gardes envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus, qui reviennent bredouilles, qui risquent gros. Et quand les pharisiens les secouent, les chefs les secouent, que répondent-ils alors qu'ils sont là, les menottes à la main? Mais personne au bout des menottes. Ils répondent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le centenier, ce responsable des soldats chargés de l'exécution de Jésus, qui avait vu peut-être des centaines et des centaines d'hommes être mis à mort sous ses yeux, un homme complètement endurci, et qui pourtant était profondément secoué en voyant comment Christ mourut, et qui dit dans Marc 15, 39, cet homme était vraiment fils de Dieu. Et cela me pose une question cet après-midi, pour mon propre témoignage. À quoi le monde reconnaîtra-t-il que le Christ est réellement vivant en nous? À quoi le monde reconnaîtra-t-il que nous sommes princes et ambassadeurs, citoyens d'un royaume de lumière et de vérité? À quoi? À nos autocollants? À nos t-shirts évangéliques? À nos badges? À nos petits poissons sur l'arrière de nos voitures? À nos slogans? À nos affiches? Oui, mes amis. Oui, je réponds oui. Vous attendiez que je réponde non, n'est-ce pas? Mais je réponds oui. Je réponds oui parce que je ne suis pas contre. Et je chercherai en vain dans les Écritures un endroit où il soit dit que nous devons être contre. Le problème n'est pas là. Pourquoi serions-nous contre alors que le diable, lui, fait tout pour s'afficher? Vous êtes allé dans une garçonnière, dans un foyer pour logement pour ouvriers, etc. Vous avez peut-être déjà ouvert leur armoire ou considéré le petit coin et loge. L'affichage de leur foi dans le dieu sexe, il est frappant, n'est-ce pas? On le voit tous les jours dans la rue. Alors, nous n'avons pas sur ce plan à faire de complexe, n'est-ce pas? Je dis oui, oui, le monde verra que nous sommes chrétiens par tout ce que je viens de dire. Autocollant, badge, etc. Dans la mesure où nous respectons la loi. Il y a des endroits où ça ne se met pas. Mais ce sera le cas seulement si nos autocollants, nos badges et tout le reste sont accompagnés d'une qualité de vie personnelle. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas dans les autocollants. Le problème, c'est notre conduite. Est-ce que notre conduite va avec? Il nous faut vivre à la hauteur de nos slogans. Je pense à Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui écrit ceci. « Quand j'étais à l'école, nous dessinions des choses comme des maisons, des chevaux, des arbres. » Et nous avions l'habitude d'écrire le mot « maison » sous le dessin de la maison et le mot « cheval » sous le dessin du cheval. Sinon, certaines personnes auraient pu se tromper et prendre la maison pour un cheval. Alors, poursuivait-il, il y a des gens qui devraient porter une étiquette autour du cou pour montrer qu'ils sont chrétiens, sinon nous pourrions nous tromper et les prendre pour des pécheurs. Je pense à ce slogan fleurissant sur un pare-choc d'une voiture américaine, et ça c'est très fréquent là-bas, et ce slogan était celui-ci, « Si vous aimez Jésus, klaxonnez. » Alors, obéissant au slogan, un conducteur arrive peu tricolore, qui est au rouge, et s'arrête derrière une voiture portant cette magnifique inscription sur le pare-choc. Et il fait un de ces doux coins-coins évangéliques à vous faire pleurer d'émotion. Pensez-vous donc que le conducteur, ou plutôt la conductrice de la voiture de devant, ait pleuré d'émotion? Pas du tout. Elle a battu un certain nombre de records dignes de figurer dans le livre des records. Tout d'abord, sa vitre avant est descendue à une vitesse record. Deuxièmement, son regard a fusillé à une vitesse record. Et troisièmement, sa langue est devenue venimeuse comme le plus épouvantable des serpents. Il a regardé cet homme droit dans les yeux, il a dit « Vous n'êtes pas foutu, espèce d'idiot, de voir que le feu est en route. » Ne le lançons pas trop vite la balle accusatrice. Il est arrivé que le Seigneur me dise: oh Maurice, le champignon, faudrait peut-être baisser un peu. Parce que sinon le poisson qui est derrière pourrait s'envoler. Un de mes auteurs préférés, un homme de Dieu américain qui est auprès du Seigneur depuis un certain nombre d'années, a écrit ceci: il y a peu d'obstacles plus graves au progrès de l'Évangile que la conduite des chrétiens. Sans exagérer, on peut dire qu'elle est plus nuisible que toutes les objections des modernistes ou des incrédules. On a parlé des vices des vertueux. Une chrétienne qui pour rien au monde ne voudrait fumer ou jouer aux cartes ou participer à des amusements mondains peut être la terreur de sa famille par sa langue pointue. Un homme qui combat pour la sainte doctrine peut être difficile à vivre et empoisonnera sa vie de famille au point que ses proches n'éprouvent que peu de regrets quand il quitte la scène de ce monde pour entrer, comme il en est pleinement persuadé, dans la paix du ciel et y vivre avec les saints dans l'éternité. L'auteur ajoute: les péchés de caractère sont aussi nuisibles à la cause de l'Évangile que les actes positifs de méchanceté. Et ces péchés sont aussi nombreux que les diverses facettes de la nature humaine. Mentionnons seulement la susceptibilité, l'irritabilité, la grossièreté, l'esprit de jugement, la mauvaise humeur, la colère, le ressentiment, la cruauté, le manque d'amour, et il y en a bien d'autres. Pour une meilleure mine dans le monde moderne. Vous aimez le foot? Il y en a qui aiment le foot à tous les coups. Je pense à ce match extraordinaire, unique dans l'histoire. Il est vrai. D'autant plus que j'ai vu l'équipe jouer, mais ce n'était pas celle-là. Mais là, c'est un match qui va avoir lieu à Sao Paulo. Et ceci suite à la visite du duc d'Édimbourg, Marie de la reine d'Angleterre. Et le duc d'Édimbourg tenait à voir jouer Pelé, qui a été vraiment mon joueur préféré de loin. Et j'ai vu son équipe jouer. Ah, mes amis. J'avais le privilège d'habiter à la frontière du Luxembourg, et quand l'équipe luxembourgeoise nationale jouait, j'étais à 2 kilomètres du stade. Alors vous pensez que j'en profitais. Eh bien, quand le roi Pelé a entendu dire que le duc d'Édimbourg désirait voir un match, on a organisé un match sur le champ pour son je ne sais pas quoi, le duc d'Édimbourg. Quand il est arrivé dans sa loge d'éminence, il y avait sur le terrain d'un côté les joueurs de Santos, tout de blanc vêtus. De l'autre, des sélectionnés de l'État de Sao Paulo, habillés de bleu, au milieu du terrain, qui était là, tout seul, le roi Pelé, tout en rouge, des pieds à la tête. Le match fut, semble-t-il, splendide. On arrive à la mi-temps, et les reporters se précipitent et braquent leur micro sous la truffe de monsieur le duc d'Édimbourg. Et on lui dit: alors, comment avez-vous trouvé la chose?
Oh, c'était bien. Et puis, il change de couleur et il dit, mais quelle idée est-ce que vous avez eue d'habiller Pelé en rouge?
Il fait bien partie d'une des deux équipes, non?
Et alors, les organisateurs étaient très embarrassés et ils lui disent, écoutez, mais c'est afin que vous le reconnaissiez parmi les autres joueurs. Et j'ai la réponse qui a paru dans un journal de l'époque sous les yeux. Voilà ce que le prince, vraiment agacé, répond. S'il vous plaît, messieurs, soyez assez aimables de dire à Pelé de reprendre la tenue blanche de ses équipiers de Santos. Je saurai bien le reconnaître grâce à son football.
C'est ça la vie chrétienne. C'est pas le déguisement. C'est la qualité de vie.
Il y a dans notre histoire un test collectif de qualité de vie. Daniel n'est pas seul. Ils sont une équipe. Savez-vous qu'ils sont 21 fois désignés par leur nom comme une équipe dans les chapitres 1 à 3. 21 fois. 3 fois 7. 7 est un chiffre de plénitude dans les Écritures. 3 fois 7, c'est la plénitude parfaite. 21 fois dans les 3 premiers chapitres, il est question d'une équipe. Ou de 3 ou de 4. Mais toujours une équipe. Comme si le Saint-Esprit voulait nous dire, dans les 3 premiers chapitres du livre de Daniel, Daniel n'était pas une vedette, il faisait partie d'une équipe et cette équipe annonçait l'Église. Alors regardez bien, quand vous lisez la Bible, nous dit le Saint-Esprit, comment vivait cette équipe? Parce que ça, c'est un test collectif de la qualité de la vie. Il y a le test individuel quand nous rentrerons chacun chez nous tout à l'heure. Mais il y a le test collectif quand nous sommes les uns avec les autres. Et il est très important ce test collectif, n'est-ce pas? Au chapitre 2, par exemple, quand il nous est montré que les compagnons de Daniel et Daniel sont menacés de mort sur une de ces fureurs arbitraires, fantaisistes, infantiles de Nebuchadnezzar. Ils sont menacés. Et comment est-ce que ça se passe? Daniel s'adressa verset 14 d'une manière prudente et sensée. Vous voyez toujours cet équilibre de caractère à Arioc, chef des gardes du roi, etc. Et puis verset 17, après avoir demandé un délai, il alla dans sa maison, il instruisit cette affaire Hanania, Michel et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Solidarité. Dans une situation difficile, cette équipe prie, ils prient ensemble. Ils sont au corps à corps dans le bon sens du terme, unis, solidaires. Le Seigneur va les exaucer. Et regardez la fin de ce chapitre 2. Lorsque le roi Nebuchadnezzar apprend cela, il tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel, lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous vous rendez compte que le potentat le plus puissant de toute l'humanité à cette époque s'est prosterné devant un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui sortait de sa petite bourgade provinciale de Jérusalem. Imaginez simplement que vous soyez reçus, que nous soyons reçus à l'Élysée. Je ne parle pas auprès de l'éventuel plus puissant de ce monde, parce que c'est discutable aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait? On risquerait peut-être de sauter les plombs à quelque part, hein? Ça risquerait de nous monter à la tête. Et puis on vous met le cordon de grand officier, et puis la médaille du mérite agricole, et puis je ne sais pas quoi encore. Vous êtes invité dans toutes les réceptions. Mes amis, mais ça pouvait monter à la tête de Daniel, ça. Vous avez vu comment Daniel réagit? J'aime ce texte. Verset 49. Daniel pria le roi de lui verser un salaire de 35 000 francs par mois. Ah non, pas du tout, excusez-moi, c'est pas dans ma Bible. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego.
Majesté, je vous en prie, pensez à mes petits copains. C'est pas ça, la solidarité, la vie d'équipe, la qualité de vie collective, pas la jalousie, pas l'envie quand un autre est mis en évidence. J'aimerais tellement être à sa place. Il a un don que je n'ai pas, il fait ce que je ne fais pas. Si je peux lui faire un croche-patte au passage, je ne manquerai pas. T'en vas. Pas du tout. Seigneur, je te bénis. Nous sommes complémentaires, c'est ce que je viens d'écrire tous ces derniers jours. Nous sommes complémentaires et interdépendants. Nous avons besoin les uns des autres. Daniel avait besoin de ses trois petits copains. Et les trois petits copains, ils avaient besoin de Daniel. Alors on travaille ensemble. Et le résultat, c'est le chapitre 3. Daniel n'est pas là. On ne sait pas trop pourquoi, mais sans doute parce qu'il occupe un poste très élevé qui le dispense de ce genre de cérémonie. Mais Dieu veut aussi que ces trois copains, maintenant qu'ils ont fait leur classe, fassent leur preuve tout seuls. Et vous avez remarqué dans le chapitre 3 comment ils s'en sortent bien. Ils font équipe. Quand on est en train de faire monter la température de la fournaise, il y en a un qui pourrait tirer l'autre par la manche en lui disant, écoute, moi j'y vais pas. Toi tu y vas, mais moi j'y vais pas. Oh non, 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 je vais perdre ma place, je vais perdre ma vie, je vais perdre ma famille. Non, vas-y, j'y vais pas. Non, ils sont comme les trois mousquetaires. Tous pour un pour tous. Vous avez remarqué? Tous disent la même chose. Quoi qu'il arrive, que tu nous épargnes, que tu ne nous épargnes pas, peu importe. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et si nous devons mourir, nous mourrons. Une fois de plus, une qualité d'unité dans leur témoignage, qui est un défi lancé à notre vie d'église. Qualité de la vie d'une église locale. De manière à ce que ceux qui viennent de l'extérieur, qui cherchent Dieu parfois sans le savoir, qui viennent là en curieux, que Dieu va amorcer par leur curiosité, même s'ils ne s'intéressent pas forcément au message, ils soient touchés parce qu'ils vont rencontrer une qualité relationnelle entre nous qui va être meilleure que le meilleur des messages. Qualité de la vie. Nous devons terminer. Et en terminant, j'aimerais simplement quand même donner la solution à une énigme, parce qu'il y a dans ce texte de Daniel au chapitre 1er une sérieuse énigme. Quel est le secret de la bonne mine? Selon une version qui a traduit ainsi, et c'est bien, quel est le secret de la bonne mine de Daniel et de ses compagnons? C'est quand même important, puisque certains courants comme l'adventisme et d'autres sectes se sont appuyés notamment sur ce texte pour justifier d'un régime végétarien, voire végétalien. Est-ce la vraie raison? Devons-nous nous appuyer sur un tel texte pour ne plus jamais manger de viande ni boire de vin? Avaler des tonnes d'eau, ce qui arrangera certaines sociétés productrices de ces eaux qui se vendent de plus en plus. Est-ce là la solution? Moi, je ne pense pas. C'est vrai que notre alimentation joue sur notre vie. Nous l'avons dit hier soir. Les excès de table et les choses semblables appartiennent aux œuvres de la chair, c'est vrai. Mais je n'irai pas clouer au pilori celui qui mangerait de la viande et boirait un peu de vin. Tout est question de modération dans l'usage. Par contre, dans les Écritures, il est dit dans Proverbe 15, verset 17, Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Nous touchons du doigt la solution. D'un côté, à la cour de Babylone, une équipe qui se chamaille. Des jeunes gens envieux, prétendant à des postes bien rémunérés de hauts fonctionnaires. C'est la course à la meilleure position. Et ça, mes amis, ça a toujours tué beaucoup d'âmes. Ces défaiseurs de paix, ça fait monter l'adrénaline dans le sang et ça crée toutes sortes d'autres problèmes. De l'autre côté, Daniel et ses compagnons, avec une attitude pondérée, une attitude calme, prudente, notamment dans les situations difficiles. Ce qui me frappe dans l'histoire de Daniel, nous l'avons vu au chapitre 2. Nous aurions pu le voir au chapitre 6. Nous l'avons sous-entendu au chapitre 3, c'est que dans toutes les situations de crise, où même la vie de Daniel est en jeu, vous avez remarqué, il ne s'affole pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier. Il remet son problème au Seigneur. Il prend le temps qu'il faut, il adore, il s'exprime, il fait le point. Et ensuite, il continue à vaquer à ses occupations en ayant remis le problème au Seigneur. Au lieu de s'inquiéter, de s'user d'inquiétude et de soucis, d'en perdre l'appétit, de développer des ulcères au duodénum et je ne sais où, il reste paisiblement au pied du Seigneur. Il est maître de lui-même. Maître de lui-même. Il possède la force intérieure. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Et en cela, Daniel annonce Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'homme doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Doux. Jésus est doux. Est-ce que ce serait une douceur à la guimauve? Style barba papa? Un petit 35 fillettes? Non, pas du tout. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit tout à l'heure? De la retraite de Jésus avec ses disciples? Au pied de l'Hermon. Quand Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur a posé la question, « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples ont répondu, « Eh bien, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. » Dites-moi, Élie, c'était une mauviette ? Est-ce qu'il était d'une mièvre douceur ? Est-ce que c'était un béni oui-oui? Quelle virilité chez le prophète Élie, hein? Homme courageux, homme de caractère, homme qui savait prendre position. Dites-moi, Jean-Baptiste, est-ce que c'était un petit chérubin surmonté d'une auréole, un joli pastel dans un ciel extraordinairement lumineux? Est-ce que c'est ça? Jean-Baptiste? Quelle virilité chez cet homme! Quel courage! Quel engagement! Quelle colonne vertébrale! Vous vous rendez compte ainsi que le jugement des gens sur Jésus C'était pas le jugement d'un Jésus style suédoise avec des longs cheveux blonds et un beau visage très féminin, pas du tout. Jésus était doux en ayant du caractère. On savait dans quelle direction on marchait quand on était aux côtés de Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant. Le mot douceur a été traduit par un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant de cette manière. Et très justement d'ailleurs, force apprivoisée. Tout simplement parce que le mot grec qui est utilisé pour être rendu par douceur était usité notamment à l'époque où le Nouveau Testament était écrit par les gens qui avaient, par exemple, dans leur environnement, un animal sauvage qui avait été apprivoisé. Quand on parlait de cet animal sauvage apprivoisé, on utilisait le terme douceur. Pour bien exprimer la particularité de la douceur dans la pensée de Dieu. La douceur dans la pensée de Dieu, c'est une puissance extraordinaire. Il y a le mot force derrière. Mais c'est une puissance qui a ceci de particulier, c'est qu'elle est sous un contrôle parfait. Il fut un temps où en Angleterre, on pouvait trouver l'aciérie avec le marteau pilon le plus gigantesque et le plus puissant de toute l'Europe. Il y avait là possibilité de visite, un ingénieur faisait des démonstrations, les visiteurs s'assemblaient autour de cette machine. Et pour faire son expérience, l'ingénieur remettait à quelqu'un, après l'avoir montré à tous, une noix. Et il prenait soin de bien montrer qu'il n'y avait pas moyen de tricher, il montrait que cette noix n'avait pas été collée ni quoi que ce soit, que c'était un fruit tel quel, complet, comme quand on le sort de chez le marchand, n'est-ce pas? Et puis il demandait s'il y avait un volontaire pour venir prendre la noix. Alors quelqu'un se déplaçait, venait vers lui, lui remettait la noix, et l'ingénieur lui disait, monsieur, est-ce ou madame, est-ce que vous voulez simplement le poser là, en dessous de la machine? Alors là, la personne était un petit peu moins à l'aise. Elle rentrait sa tête dans les épaules, elle mettait vite la noix à l'endroit désigné, elle reculait. On a toujours peur dans ces cas-là, on ne sait jamais. Et voilà notre ingénieur qui appuyait sur un certain nombre de boutons. La masse descendait, s'arrêtait, on ne voyait plus rien. Elle remontait et tout le monde aurait dû s'attendre, bien entendu, à voir une espèce de purée, s'il y avait même de la purée. Pensez-vous ? La noix était toujours là. Et l'ingénieur demandait à la personne, « Madame, monsieur, allez récupérer la noix. » Alors la personne rentrait sa tête dans les épaules, elle allait chercher la noix. Elle était un peu plus confiante parce qu'elle voyait que la noix avait tenu le coup. Quand on n'a pas soi-même une tête de noix, ce n'est pas risqué. Elle prenait la noix et l'ingénieur lui disait, « Madame, monsieur, maintenant, vous pouvez la décortiquer ?»« Mais je n'ai pas de casse-noix. »« Mais madame, vous n'avez pas besoin de casse-noix. Décortiquez-la. » Et la personne pouvait se rendre compte que cette machine tellement puissante avait exercé tout juste la pression nécessaire et suffisante pour fracturer la coquille sans blesser la pulpe. Une puissance extraordinaire sous un contrôle parfait. C'est exactement la définition de la douceur dans le fruit de l'esprit. Jésus était doux. Dans sa douceur, il est entré un soir dans le temple et il a vu que dans le temple se passaient des choses qui faisaient de ce temple une caverne de voleurs. Il en est ressorti. Tout d'abord, il s'est contenu avec maîtrise de soi, avec force intérieure. Il a refusé d'agir aussitôt. Il est allé, semble-t-il, passer la nuit sur le mont des Oliviers, il a prié, il a rencontré son Dieu, il a peut-être fait le somme nécessaire pour pouvoir reprendre, et le lendemain matin, il est rentré dans le temple. Il a vu à nouveau ce commerce odieux, ce désordre indescriptible. Il a vu les piles de pièces et la cupidité des vendeurs. Il n'a pas retroussé ses manches, il n'est pas devenu violemment rouge, avec un regard épouvantable, non. Il a pris son temps. Il s'est d'abord fabriqué un fouet. Ça permet de maintenir le calme. Et quand il a terminé de fabriquer son fouet, alors il a fait du ménage. Et il a fait ce ménage jusqu'au bout, je dirais avec douceur. De ce sens qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Tout le texte nous montre, aussi court est-il, qu'il a fait ça avec une parfaite maîtrise de soi. Il a fait certains gestes et dans certains cas il a parlé. Il a dit, écoutez, vous allez m'ôter ça d'ici. S'il avait été un homme furieux, hors de ses gonds, incapable de se contrôler, ça aurait été épouvantable. On voit un homme parfaitement maître de ses réactions. Ça, c'est la force apprivoisée. Daniel, voyez-vous, c'est un homme sauvage. Sauvage. Comme vous et moi. Sauvage comme vous et moi. Dans notre nature. En chacun d'entre nous, je l'ai souvent dit, sommeille un Hitler. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet homme sauvage, par la nouvelle naissance, a été apprivoisé par Dieu. Daniel est un homme sauvage, apprivoisé par Dieu, habitué à cheminer avec lui, contemplateur de Dieu, confiant et paisible entre ses mains. Ça, c'est l'équilibre. Saint et aimant à la fois. Prenons et nous terminons, ce sera notre dernier texte simplement. Ce texte d'Apocalypse chapitre 5, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 5, et nous terminons avec lui. Apocalypse 5, une vision extraordinaire, Apocalypse chapitre 5, puis je vis dans la main droite, verset premier de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un lion qui avait sept cornes et sept yeux. C'est ça? C'est juste? Non mais c'est juste. Je recommence, hein? Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards, un lion. C'est pas ce que vous avez dans votre texte? Qu'est-ce que vous avez dans votre texte? Un agneau? Ah mais il doit y avoir une faute. Ben écoutez, au verset 5, il est dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Ne me dites pas qu'après c'est un agneau, ou bien c'est un agneau, ou bien c'est un lion. Vous n'avez pas la même Bible que moi. Ça remet toute notre étude en question, hein? Sauf si s'il s'agissait effectivement d'un lion au cœur d'agneau. Un lion au cœur d'agneau. Un roi, mais non pas un roi comme les rois de ce monde, dont Jésus dit qu'ils abusent de leur autorité, qu'ils écrasent, qu'ils profitent de leur pouvoir. Un lion, oui. Avec une éminente autorité, mais un lion au cœur d'agneau. C'est ça, n'est-ce pas, la particularité de Jésus-Christ. Une puissance extraordinaire, mais contrôlée de manière extraordinaire. Non pas une puissance qui écrase, qui nivelle, qui ôte toute personnalité, comme dans les sectes, mais une puissance respectueuse, parce que marquée en permanence au coin de la douceur, de l'amour. Ça, c'est Daniel qui l'annonçait. Daniel, c'était un jeune lion, puis un vieux lion aussi, dans Daniel 6, mais au cœur d'agneau. Cet équilibre du caractère, de l'autorité, sans être autoritaire, de la sainteté, sans être dur, de l'amour, sans être mou, de la douceur, sans mièvrerie, de la bonté, sans être bête, et nous pourrions ainsi continuer. Alors je comprends la suite de ce texte. Il y avait là comme un agneau qui était comme immolé, il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen », c'est-à-dire « C'est vrai ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que le texte est beau! Et au moment où je pense à ce texte, je pense au texte d'Apocalypse, chapitre 13, verset 11, qui dit ceci: « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. » Et qui parlait comme un dragon. Ouais. Ça, c'est l'Antichrist. L'Antichrist qui vient. Et son prophète, son faux prophète, celui qui le flanque et qui lui donne toute la place. Un agneau, apparemment. Il en a les cornes. Mais vous avez vu la suite. Quand il ouvre la bouche, il parle comme un dragon. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement attentifs aux formes qu'ensuite nous avalons n'importe quoi pour le fond. Et certains se tromperont dans cette période d'approche de l'Antichrist. et ils auront tendance à penser que tout ce qui a des cornes et qui ressemble à un agneau ne peut être qu'évangélique. Ce ne sont pas les cornes de l'agneau qui comptent. Demandez-lui toujours d'ouvrir sa gueule. Regardez sa langue. Comment parle-t-il? Est-ce qu'il est en accord avec Dieu? D'un côté, le lion au cœur d'agneau. D'un autre côté, le dragon sous l'apparence d'un agneau. Ça aussi, c'est un choix pour chacun d'entre nous. Lequel des deux voulons-nous servir? Nous voulons prier. Merci, merci Seigneur. Merci de tout cœur pour Daniel. Parce que Daniel nous a aidés cet après-midi, en particulier, à élever nos regards plus haut et à te contempler. Merci parce qu'en lui nous avons vu un type du Seigneur Jésus-Christ, le lion au cœur d'agneau. Merci pour la sainteté de Daniel. Merci aussi pour sa si grande sensibilité, sa courtoisie, son tact, sa sagesse, son bon sens. Merci pour son courage, mais aussi pour sa modestie. Merci pour son autorité, mais aussi pour son humilité. Seigneur, après avoir partagé tout cela, nous avons un cri, un désir, un soupir au fond de nos cœurs. Seigneur, fais-nous ressembler, au-delà de Daniel, de plus en plus à ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons être nous aussi des lions, mais au cœur d'agneau. Aide-nous à régner en serviteurs. Sois béni. Merci de faire passer ce message de nos têtes jusqu'au fond de nos cœurs et de nos cœurs jusqu'au bout de nos doigts dans notre pratique. Et merci. Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour cette possibilité permanente de revenir à la croix, de te demander pardon, de reprendre la route, de rectifier le tir, de retrouver l'équilibre, de grandir peu à peu, de développer peu à peu le fruit de l'esprit. Merci, tu ne nous écrases pas de tes exigences avec autoritarisme. Nous te remercions. Parce que tu permets un véritable épanouissement, qu'il soit le nôtre à chacun. Nous voulons te recommander encore chacun de ceux et celles qui, durant ce week-end, ont fait le choix de t'appartenir. Nous te demandons d'accompagner chacun d'entre eux, de les fortifier, de les équiper, de les réjouir et de les aider chacun pour sa part, à devenir avec nous des Daniel, de plus en plus ressemblant à ton Fils, Jésus-Christ. Merci Seigneur, de tout notre cœur, en son nom. Amen.